Sud Radio, service compris, Laurence Perrault.
Et jusqu'à 14h, vous avez la parole au 0826 300 300, également service compris, c'est l'émission qui nous rend service. Et je dis bien nous parce que le sujet qu'on va évoquer jusqu'à 14h, je pense qu'il concerne une grande majorité de Français, ne serait-ce que pour être au courant. On va parler de l'hypertension et on le fait sur Sud Radio avec vous, docteur Christophorov. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous rencontrer.
Plaisir partagé.
Ça tombe bien, ça commence bien. Alors, docteur Christophorov, on va parler de cette hypertension. On l'a voulu tous les deux quand on a préparé cette émission parce que ça touche quand même 20% de la population française.
Et même plus, 30, le tiers. On considère qu'un tiers de la population adulte est atteinte d'hypertension artérielle.
Alors, population adulte, ça c'est important. Oui. C'est-à-dire que l'hypertension n'arrive pas à jeunes.
Non, ou on alors va tout très de suite, exceptionnellement.
Alors je vais vous demander de vous rapprocher un peu de votre micro, j'ai l'impression que vous êtes loin de moi et ça j'aime pas du
voilà.
tout. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors cette hypertension, il y a des causes, il y a des conséquences, on va commencer par le béaba. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle?
Alors l'hypertension artérielle, le terme est consacré, il va rester, mais en fait c'est l'augmentation de la pression. La pression comme dans les tuyaux de votre installation de plomberie. Et quand on dit hypertension, les gens pensent à quelque chose qui est tendu, qui tire. Ils le confondent un peu avec l'hypertension mentale, le stress. C'est pas tout à fait ça, c'est vraiment un problème d'hydrologie en quelque sorte. C'est la pression qui est augmentée.
C'est la pression du sang dans les artères.
Dans les artères.
Donc ça abîme les artères.
Ça abîme les artères par des tas de façons. Ça abîme les artères et quelquefois à des endroits, il y a des points faibles qui cèdent et ça fait un anévrisme, ça fait une dilatation. Ça abîme les artères du cerveau où les anévrismes peuvent se rompre, où les artères peuvent se boucher. Ça peut abîmer les vaisseaux des yeux, ça abîme surtout le cœur, à la fois en abîmant les artères coronaires, d'où l'infarctus, et en fatiguant le cœur. Ça abîme énormément les reins. Une grande partie des gens qui sont en insuffisance rénale et en hémodialyse sont des hypertendus. Bref, il y a des tas d'autres conséquences plus rares, mais très importantes.
Avec vous, docteur Christophorov, sur Sud Radio, dans Service Compris, on va évidemment mieux connaître cette hypertension. Et je vous propose d'accueillir tout de suite les premiers appels au 0826 300 300. C'est un sujet qui vous correspond. Vous voulez ou poser des questions ou témoigner des conséquences de votre hypertension afin que le plus grand nombre connaisse bien cette particularité. C'est Patrice que nous accueillons sur Sud Radio. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Je vous en prie.
Comment allez-vous, puisqu'on parle d'hypertension?
Moi, ça va, justement, j'ai 72 ans, là, depuis peu de temps.
Bon,
je voulais savoir comment détecte-t-on l'hypertension?
C'est une très bonne question. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse. On dit le tueur muet, le tueur silencieux. Parce que il y a très peu de symptômes, quelquefois des maux de tête, quelquefois des palpitations, mais en réalité, la plupart du temps, si elle n'est pas détectée par un examen systématique, l'hypertension artérielle va se révéler par une complication, un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde.
Mais je vais aller dans votre sens, Patrice. Quand on va chez le médecin faire ne serait-ce qu'un petit check-up régulièrement, ou parce qu'on a un petit rhume, il nous refait un petit check-up complet, on nous prend la tension sur le bras.
Oui. Tout à fait.
Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que quand j'arrive chez mon médecin, je viens de faire 200 mètres à pied en accélérant le pas pour arriver à l'heure, ou je viens de monter 4 étages parce que l'ascenseur est en panne, et à ce moment-là, la tension est élevée. Mais il est évident que devant cette tension élevée, mon médecin qui me connaît reprend la tension 5 minutes après et 10 minutes après pour voir si elle redevient normale.
Ben vous posez tout à fait le problème, non seulement les efforts physiques, les émotions, mais simplement la présence d'un médecin, d'une blouse blanche, peut faire monter la pression artérielle. Et les spécialistes de l'hypertension artérielle interdisent aux blouses blanches de prendre les tensions. Ils demandent que ce soit les patients eux-mêmes qui prennent leur tension artérielle, de préférence chez eux, tranquillement, avec un appareil d'automesure.
Merci. Merci beaucoup Patrice pour votre intervention. Merci. Patrice qui nous a rejoint à 0826 300 300. Donc soit vous avez juste des questions à poser comme c'est le cas de Patrice. Donc profitez de la présence de notre invité qui est professeur en médecine interniste, le docteur Christophorov sur Sud Radio, service compris. D'ailleurs, à partir de quand, docteur, on considère qu'on est en hypertension? C'est-à-dire que quand on nous prend, revenons, hein, voilà, on est chez le médecin, tout va bien, on est détendu, il nous a tellement fait attendre longtemps, parce qu'on attend toujours longtemps, qu'on s'est posé, non je rigole. À partir de combien on est considéré?
Alors, on considère,
comme hypertendu.
Ça se mesure en millimètres de mercure. Lorsque le cœur se contracte, c'est la maxima. Et lorsque le cœur se détend, c'est la minima.
C'est la systole et la...
La systole, il se contracte, la diastole, il se détend. Alors, la maxima, la limite de la maxima, c'est 140, et la limite de la minima, c'est 90. Lorsqu'on est au-dessus de ces chiffres, on a une tension artérielle élevée.
On le voit, ça touche les adultes principalement. Quelles sont les premières causes?
La cause de l'hypertension artérielle n'est en fait pas connue.
Ah.
On dit que c'est une hypertension artérielle essentielle, c'est un terme que les médecins utilisent quand ils ne savent pas. Alors, on sait qu'il y a des facteurs favorisants, l'obésité, le diabète, le tabagisme, l'excès d'alcool, il y a des facteurs, un régime trop salé, la cause première n'est pas connue.
Mais là, vous venez de me donner des causes de vie, c'est-à-dire tabac, alimentation, alcool. Il y a quand même d'autres causes qui ne sont pas dues à tout ça. Parce que moi, je connais des gens qui ont une vie trop saine, enfin, que vous considérez comme étant très saine et qui font de l'hypertension.
Mais les maladies ne sont pas une punition des péchés.
Ben oui, c'est pour ça que je vous reprends.
Donc, il y a des causes. On ne connaît pas la cause. Un jour, on la connaîtra.
0826-300-300, vous êtes les bienvenus, vous le savez, service compris, jusqu'à 14h sur Sud Radio, on parle de l'hypertension. On a Marie qui nous rejoint, bonjour Marie.
Eh oui, bonjour, alors voilà, donc je suis une personne très surveillée, pourquoi? Parce que j'ai fait une phlébite l'an dernier, j'ai eu une thrombose quand même assez importante, et qui a disparu sous Préviscan en partie, mais toujours quand même en bas de la jambe et en haut.
Alors Marie, pour en revenir à l'hypertension, pour en revenir vraiment à l'hypertension.
Alors donc j'ai eu des complications sous Préviscan, j'ai fait hémorragie, tout ça. Et donc, j'avais le cardiologue me voyait, tout le monde me voyait. Comme on ne connaissait pas l'origine de la phlébite, donc on m'a envoyé faire des examens supplémentaires. Et au cours de la coloscopie qui ne s'imposait pas, mais on cherchait, donc on a découvert, tout d'un coup, brutalement, 17-11. Alors l'infirmière me disait, puisque je n'étais pas connue hypertendue, c'est parce que... Mais pas du tout, parce que pendant l'intervention, j'ai eu aussi quand même beaucoup de...
S'il vous plaît, Marie, excusez-moi, il y a beaucoup de monde au standard. Allez droit au but, s'il vous plaît.
La question que je me pose, chez moi, chez une personne comme moi, qui était extrêmement surveillée, parce qu'elle avait déjà fait 2 embolies pulmonaires, etc., bon, j'avais des problèmes, donc... Une hypertension brutale est-elle la complication de cette phlébite?
Cet état médical,
oui. Est-ce qu'à ce moment-là, elle peut disparaître? Je suis traitée sous irbesartan.
D'accord, on ne va pas faire le livre rouge du médecin Vidal en direct, mais on a bien compris. Donc la question, docteur, la réponse, pardon, docteur.
Oui, vous posez effectivement la question du facteur déclenchant. La réponse, elle est donnée par la surveillance. Parce que lorsqu'on est ému, si vous coincez le doigt dans la porte, votre pression artérielle, elle monte à 25. Mmh. Mais la question est de savoir si c'est une vraie hypertension durable ou non. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on fait? On pose un holter tensionnel, on pose un appareil à tension pendant 24 heures, et cet appareil enregistre les différentes valeurs. Et si on s'aperçoit que la plupart du temps, votre pression artérielle est normale, eh bien vous n'êtes pas hypertendu. Si on s'aperçoit que vous avez des chiffres de pression artérielle élevés, et notamment la nuit, car c'est surtout la nuit que la pression artérielle est élevée, eh bien on dira que vous êtes entré ce jour-là dans l'hypertension artérielle permanente.
Voilà Marie pour la réponse de notre invité. Merci d'être intervenue sur Sud Radio.
Merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir. 0826-300-300, vous faites comme Marie également si vous voulez rencontrer le docteur Christophorov. On parle de l'hypertension. Alors cette hypertension que vous dites muette, enfin en tout cas on la voit pas venir, on la sent pas venir. C'est vrai que quand on ne la subit pas, quand on n'en souffre pas, on a la sensation que si on a de l'hypertension, on va se sentir à l'intérieur comme une pile électrique et pas du tout.
Tout à fait. C'est le jeu de mots que je vous ai indiqué au début. Hyperpression n'est pas hypertension au sens de l'énervement. On ne l'aperçoit pas, l'hypertension artérielle. C'est, Et d'ailleurs, ça pose un problème, c'est que les gens, même une fois traités, ont du mal à concevoir qu'il s'agit d'une maladie chronique pour laquelle il faut prendre toute sa vie le traitement. Beaucoup disent « Ah ben non, je suis bien, ma pression artérielle est normale, j'arrête. » Et puis, quelques semaines après, elle remonte.
Quel type de traitement existe-t-il aujourd'hui ?
Il existe le traitement d'hypertension artérielle, il est parfaitement bien codifié. Il faut dire qu'à cet égard, les spécialistes français ont été à la pointe des traitements. On prend tous les jours un ou deux comprimés qui incluent, il y a trois ou quatre substances qui sont la plupart du temps utilisées, et les firmes pharmaceutiques font en général des comprimés qui contiennent deux ou trois produits, de manière qu'une seule prise suffise au traitement.
Mmh. Mais vous venez de dire précédemment sur Sud Radio que quand on commence un traitement, qu'on a de l'hypertension, c'est à vie, il ne faut jamais l'arrêter.
C'est exact.
C'est triste ?
C'est triste, mais c'est encore plus triste d'être hémiplégique à 50 ans.
À d'ailleurs, cause de l'hypertension.
Allez donc dans certains pays où les gens ne sont pas traités. Allez en Afrique et vous verrez combien de gens jeunes marchent dans la rue hémiplégiques avec une canne.
Mais ça veut dire que cette hypertension dont le milieu médical ne connaît pas encore véritablement les causes, on ne peut pas aujourd'hui la rompre, on ne peut pas aujourd'hui la guérir comme on guérit d'une grippe ou...
Tout à fait, mais c'est le concept de maladie chronique qui est mal assimilé par les gens. On comprend très bien qu'on a une maladie aiguë, on meurt, on guérit, mais on comprend moins bien qu'on est un diabète pour lequel il faut se traiter toute la vie, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, etc.
Bernadette est avec nous au 0826 300 300, service compris sur Sud Radio, vous le savez, c'est votre rendez-vous. On échange, on partage les connaissances et puis on pose les questions, on vient témoigner. 0826 300 300, Bernadette, bonjour.
Oui, bonjour. Je vous téléphone pour faire un petit témoignage sur l'hypertension et la polykystose.
La quoi ?
Voilà, j'ai
la
52
quoi, pardon,
ans et on m'a détecté une polykystose à l'âge de 38 ans et on m'avait dit que les causes, que les conséquences, ça serait une hypertension. Et effectivement, à 40 ans, j'ai fait de l'hypertension. Ça a commencé à 17-10. Et là, j'ai 52 ans. Il y a 3 ans, j'ai fait un infarctus. Et mon hypertension ne descend jamais en dessous de 14,9.
La poly, docteur.
Une polykystose hépato-rénale, la pancréatique, c'est des kystes sur les reins.
Oui, c'est une maladie congénitale.
Oui.
Ce qui est important, c'est la polykystose des reins. Pour le foie et le pancréas, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Non.
C'est une maladie qui aboutit à l'insuffisance rénale chronique. Et toutes les maladies, pratiquement toutes les maladies rénales, comportent une hypertension artérielle. Le rein joue un rôle très important dans la régulation de la pression artérielle.
Donc là, c'est plus le rein qui est à l'origine de...
Voilà, et le stress n'est vraiment pas bon parce qu'en fait, je n'ai ni cholestérol ni diabète.
Alors, est-ce que le stress joue vraiment ? Parce que je vous ai vu faire une petite moue, docteur.
Non, pas énormément. Pas énormément. Ça peut jouer un tout petit peu, mais c'est à la marge.
Mais en tout cas, voilà, vous avez là aussi un témoignage.
Pourtant, quand je suis stressée, ma tension monte. Là, dernièrement, j'ai eu vraiment un gros, gros stress. Vraiment de grosses inquiétudes, vraiment, vraiment. Et ma tension est montée à 20-10.
Wow.
C'est tout à fait vrai, mais c'est temporaire.
Là,
si on prend votre pression artérielle à distance du stress, elle revient à son niveau d'avant, c'est-à-dire plus ou moins élevé selon le traitement.
Voilà, c'est ce que vous expliquiez. Merci beaucoup Bernadette pour ce témoignage également sur Sud Radio. C'est ce que vous expliquiez, docteur Christophorov, c'est qu'il y a des moments d'émotion, des moments de stress plus ou moins gros qui vont la faire monter, mais c'est pas ça qui va être à l'origine de la création de ce qu'on appelle l'hypertension
pas
en tant que maladie chronique, en fait.
Pas du tout. Vous-même, moi, quand on a une émotion, quelque chose, la pression artérielle monte. Mais c'est un phénomène...
Temporaire,
normal.
Merci beaucoup en tout cas Bernadette. Vous continuez de nous rejoindre au 0826 300 300 pour parler de l'hypertension. Vos questions, vos témoignages, c'est sur Sud Radio. Service compris, c'est jusqu'à 14h. Docteur, vous restez en notre compagnie pour accueillir tous ceux qui nous rejoindront au standard 0826 300 300.
Sud Radio, service compris, Laurence Perrault.
Service compris jusqu'à 14h et avec vous le docteur Christophorov qui est, je vous le rappelle, professeur en médecine et interniste et on parle de l'hypertension. Alors juste avant de continuer sur l'hypertension et de vous accueillir au 0826 300 300 car vous avez compris, service compris c'est votre émission, celle qui nous aide dans le quotidien et c'est du concret. Ça veut dire quoi professeur interniste ?
Interniste, ça veut dire une médecine de synthèse des différentes spécialités et la prise en charge d'un certain nombre de maladies particulières, plutôt rares, Donc c'est une des branches des spécialités médicales.
Voilà, je voulais quand même qu'on remette les choses au point, parce que généralement on parle d'interne, on pense à interne en hôpital, mais là ce n'était pas le cas. On parle de l'hypertension, c'est un sujet qui fait réagir beaucoup de monde au standard. Je voudrais quand même vous poser une question, c'est que depuis le début de ce sujet dans Service Compris sur Sud Radio, ce sont essentiellement, à une exception près, les femmes qui nous appellent. Est-ce que l'hypertension est un problème plus féminin que masculin ?
Non, pas du tout. C'est plutôt les hypertendus sont plutôt des hommes. Il y a une prédominance modérée des hommes, mais les deux sexes sont atteints.
Alors si vous avez loupé le début de l'émission sur l'hypertension, vous inquiétez pas, avant de vous quitter, avant 14h, on fera un petit point sur les conséquences de cette maladie qui est considérée comme une maladie chronique. Mais tout de suite, on file au standard. C'est Marie que nous accueillons. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Marie, on vous écoute. Je crois que vous avez une question sur l'hypertension à penser.
Voilà. Ma tension, elle est contrôlée déjà depuis des années, mais seulement je constate que le chiffre bas reste quand même élevé. C'est-à-dire que si j'ai 12, ce sera 8. Il n'y a qu'une différence de 4 entre le chiffre haut et le chiffre bas. Est-ce que ça a une importance ? Est-ce que ça signifie quelque chose ? Voilà ma question.
Vous voulez dire que vous avez 12-8 ?
C'est 4 points. Voilà, j'ai 12-8.
Mais c'est normal, oui, Marie, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal.
Je n'ai jamais plus de différence que 4 entre le chiffre élevé et le chiffre bas. Or, j'ai autour de moi des amis qui ont par exemple 15 et 6, hein, ou même plus. Alors je me disais, le chiffre bas n'est peut-être pas suffisant.
Non. C'est une bonne question que nous pose Marie, parce que voilà, comme ça, quand on va chez notre médecin, on va comprendre.
C'est vous qui avez une tension correcte. Votre ami qui a 15-6 devrait peut-être consulter un cardiologue, parce qu'il peut y avoir, d'abord le 15 est un peu élevé, et le 6 est un peu bas, il peut y avoir une anomalie des valvules cardiaques.
Oula, vous allez lui faire peur.
D'accord.
Là. Parce que si on a un petit cœur...
Le fait de parler aux autres de sa santé est une source d'ennui sévère.
Ah. Bon ben Marie, merci, comme ça tout le monde en a profité.
Merci beaucoup pour la réponse.
Mais 12, je peux vous poser une question indiscrète, Marie, je peux vous poser une dernière question indiscrète.
Oui.
Et quelle est votre génération ?
Ma génération, mais j'ai 80 ans.
Parce que 12-8 à 80 ans, c'est juste magique et magnifique, docteur.
Oui, mais c'est avec un traitement ou sans traitement ?
Avec un traitement, bien sûr.
Ah. Voilà. D'accord, mais en tout cas ça va bien. Et vous avez une jolie voix, Marie, et merci d'être avec nous à l'écoute et sur Sud Radio aujourd'hui.
Je vous embrasse. Merci pour votre émission.
De rien, merci. Pensez à vous aussi, prenez soin de vous. Marise également est avec nous au 0826 300 300. Dites donc, docteur, quel succès. Dès qu'on parle de l'hypertension, le standard est hypertendu lui aussi.
C'est normal,
hein.
C'est normal, c'est une maladie fréquente.
Bonjour Marise, merci d'être avec nous sur Sud Radio.
Bonjour docteur, bonjour Laurence.
Bonjour Maryse. Alors vous êtes touchée, hein, vous êtes hypertendue.
Ben oui, mais j'y étais déjà quand j'avais 15 ans, puis après ça s'est amélioré. Et puis là, je suis suivie régulièrement. J'ai deux médicaments et puis ma tension est à peu près régulière. Mais le problème, c'est que j'ai eu un AVC en 2008 et je voudrais savoir. Je n'ai pas été prise en charge à ce moment-là et je voudrais savoir s'il y a des choses à faire ou s'il y a des problèmes qui risquent de ressurgir.
Alors, docteur, est-ce que l'AVC a un lien avec l'hypertension ou inversement proportionnel ?
C'est tout à fait possible, seulement l'hypertension artérielle n'est pas la seule cause d'AVC. Et donc quand on fait un AVC, il faut faire un bilan cardiovasculaire, c'est-à-dire examiner les vaisseaux du cou avec un Doppler, examiner le cœur pour voir si les valvules marchent bien, si le rythme cardiaque est normal. Bref, c'est un bilan cardiologique qu'il faut faire pour chercher une éventuelle cause à cet AVC. Il se peut d'ailleurs qu'on n'en trouve aucun.
Et par rapport à l'hypertension
Alors, l'hypertension, il est toujours important que la pression artérielle soit normale, normalisée au besoin par un traitement.
Maryse ?
Je suis un traitement. Là, je prends deux médicaments le médecin a augmenté un peu le médicament, c'est stabilisé. Mais je me demandais si par la suite je pourrais pas sous l'égide du médecin baisser la quantité de médicaments, simplement parce que ça se serait équilibré plus.
C'est un fantasme fréquent. Les gens considèrent à la longue que le médicament est une calamité et qu'il faut le baisser. C'est évidemment pas logique. L'important, c'est que vous preniez la quantité de médicaments nécessaire pour normaliser votre tension. Si votre tension baisse trop, le médecin diminuera le traitement. Si elle ne change pas, on restera avec le traitement actuel.
Une question, et je profite de votre témoignage également, Maryse, vous parlez de médicaments, de traitements. On sait qu'on ne sait pas. Vraiment l'origine de l'hypertension, oui. Quelle est la molécule dans ce médicament qui va permettre de baisser, de la réguler?
Il y en a plusieurs. On prend une petite quantité d'un diurétique qui modifie la tonicité des vaisseaux. On prend des médicaments qui agissent sur les hormones surrénales et bloquent leur effet hypertenseur. On prend des médicaments qui décontractent la paroi des artères. On intervient sur plusieurs points de la régulation de la pression artérielle.
Ça doit être aussi familial parce que ma grand-mère faisait de l'hypertension.
Très bonne question.
Et moi, j'ai tendance à faire de l'hypertension, ma sœur en fait, mais moins, toujours moins. Je pense que... qu'est-ce qui est prédominant par rapport à l'hypertension? Par exemple, si on peut mettre en avant quelques petites choses, perdre du poids, ne pas manger salé, ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Je comprends, Marie, c'est que, voilà, qu'est-ce qui, concrètement, nous, êtres humains, on peut faire sans prise médicamenteuse ou sans chimie pour améliorer l'état de fait de l'hypertension, docteur?
La chimie n'est pas une mauvaise chose.
Bien sûr.
L'hypertension artérielle est plurifactorielle. Il y a un facteur génétique, mais souvenez-vous, quand une personne sur trois est atteinte, la génétique, dans sa famille, tout le monde est hypertendu. Les autres causes, ce sont des causes qui sont adjuvantes en quelque sorte, qui contribuent à l'hypertension. Vous les avez d'ailleurs énumérées. C'est un régime trop riche en sel, c'est la surcharge en poids, c'est le tabagisme, le fait de fumer, c'est l'alcool. Le diabète, l'alcool, etc. Il y a une liste de produits. Mais il n'y a pas un facteur unique sur lequel on dit on tourne un bouton et on n'est pas hypertendu.
Oui, donc ce que veut dire Marie, c'est qu'effectivement, même faire du sport, marcher, se faire du bien, faire attention à ce qu'on mange, de toute façon, ce sera que bon pour son corps, mais c'est peut-être pas spécialement ça qui va réussir. De toute façon, voilà, c'est
à
vie.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Maryse. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Service compris, continue. Attention, top départ des 5 dernières minutes sur notre rendez-vous concernant l'hypertension. Dans ce rendez-vous avec vous, docteur, puisqu'on parle de cette hypertension avec le docteur Christopherov, c'est Malika qu'on accueille au standard de Sud Radio. Bonjour, Malika.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Oui.
Alors,
ma question, c'était par rapport, j'ai une sœur qui a fait un AVC, et je voudrais savoir, et là, elle fait toujours de l'hypertension suite à ça, et je voudrais savoir si elle peut refaire un autre AVC, et si c'est vital, quoi.
À quel âge votre sœur a fait un AVC?
Elle a fait son premier AVC à 46 ans. Et aujourd'hui,
c'est très
elle en a 54, très tôt. Oui.
C'est très tôt et elle est donc exposée au risque. Il faut qu'elle se mette entre les mains d'un cardiologue.
Alors, attendez docteur, je vais vous proposer Malika d'écouter, mais on a un problème avec votre ligne téléphonique, ce qui fait que ça fait une vraie friture. Donc j'ai demandé à Franck juste, docteur, écoutez bien le docteur, excusez-moi, c'était un petit truc technique, mais...
D'accord.
Oui, elle est exposée à une récidive, et donc elle doit être surveillée par un cardiologue qui a l'habitude de ce genre de situation et qui prendra toutes les mesures nécessaires, et sont multiples, pour la mettre à l'abri. Par exemple, lui donnera non seulement un traitement hypotenseur, mais un traitement anti-agrégant qui empêche les caillots de se former, etc. Il y a plusieurs traitements à suivre.
D'accord. Elle a un cardiologue, elle est suivie, mais sa crainte, c'est vraiment de récidiver.
Écoutez, on ne peut pas dire qu'elle est totalement exonérée de ce risque, mais si elle est bien suivie et bien traitée, le risque est au plancher.
Je voudrais rebondir sur votre expérience, Malika. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir, et nos amitiés aussi à votre sœur. Je voudrais rebondir sur le témoignage de Malika dans Service compris sur Sud Radio, parce que ça fait quand même deux fois, parce qu'on parle de l'hypertension avec vous, docteur... sur Sud Radio qu'on parle d'AVC. Et on n'a jamais autant entendu parler d'AVC que ces 10 dernières années. Alors peut-être parce que maintenant on met un nom dessus. Mais est-ce que la population est de plus en plus hypertendue et donc à risque d'AVC ou pas?
Non, la population n'est pas de plus en plus hypertendue, pas plus qu'il y a eu des gens qui disent qu'il y a de plus en plus de cancers, etc. Mmh. Les gens vivent de plus en plus vieux. Tous les ans, l'espérance de vie s'accroît de 2 à 3 mois. Donc plus on vit vieux et plus on est exposé aux différents risques de maladies. C'est cela. Ceci dit, les accidents vasculaires cérébraux sont en diminution. Lorsque j'étais étudiant en médecine, dans une salle de malades, la moitié des patients étaient des accidents vasculaires cérébraux. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus rare.
Alors, puisque nous arrivons bientôt à la fin de notre rendez-vous, je pense qu'il est utile, on va prendre notre temps parce que c'est important, d'expliquer de nouveau d'où vient l'hypertension, si tant est qu'on sache, quels sont les vecteurs, les symptômes qui peuvent peut-être nous alerter, et puis surtout, quelles peuvent être les conséquences. Donc, on rappelle bien que même la médecine ne sait pas exactement d'où ça vient.
On ne sait, il y a une cause première que l'on ne connaît pas, mais on sait, on connaît les effecteurs, les chaînons qui conduisent à cette hypertension et qui passent par les glandes surrénales, les reins et le tonus des vaisseaux. Les facteurs sont donc multiples, il y a un petit facteur familial. Les facteurs aggravants que l'on connaît, c'est les régimes trop riches en sel, c'est l'obésité, c'est le diabète, c'est l'usage du tabac, c'est l'alcoolisme ou même l'usage d'alcool en quantité supérieure à ce qui est conseillé. Voilà les principaux facteurs.
Petit sourire avant de continuer, c'est quoi ce qui est conseillé? Vous dites plus que ce qui est conseillé en termes d'alcool. Il y a un conseil médical sur la consommation.
L'Organisation mondiale de la santé vous le dit, c'est 2 à 3 verres de vin chez l'homme et un verre de moins chez la femme.
D'accord, ça tombe bien, je vais aller déjeuner juste après. Je souris. Pour conclure, cette hypertension artérielle...
Juste une seconde.
Oui. Ah bah oui, pas
qui,
plus. Hein.
Qui doit traiter l'hypertension artérielle? Pour les
questions.
Hypertensions artérielles, le généraliste. Pour les hypertensions artérielles ordinaires, les généralistes. Le cardiologue. Il y a des cas d'hypertension artérielle rebelle, difficile à traiter, et il y a là des services spécialisés dans ce domaine.
Et que l'on trouve en milieu hospitalier, j'imagine.
Tout à fait.
Merci beaucoup, docteur, d'avoir été à nos côtés, docteur Christoforov. On aura le plaisir de vous retrouver dans Service Compris ultérieurement. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.